is go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. L'émission d'aujourd'hui a pour ambition de vous faire découvrir une aventure éditoriale toute particulière, celle des carnets d'Anjou. Des carnets version papier. Et en 2025, s'il vous plaît. Cela relèverait presque de l'anachronisme, puisqu'aujourd'hui, point de salut dans l'édition hors du format numérique. On nous rebat les oreilles avec les réseaux sociaux, les sites, maintenant les newsletters, et pourtant, d'aucuns s'accrochent encore à cet archaïsme qu'est le papier, à la reliure cousue, à l'exigence d'une typographie qui ne soit pas la si triste et indigeste Calibri, à la reproduction photographique délicate. Et pour fabriquer quoi? Tout simplement du beau. Venant du chef de la conservation du patrimoine du département du Maine-et-Loire, c'est finalement pas très étonnant. Conservation, patrimoine, tout ça, finalement, c'est que de l'ancien. Alors parlons-en. Il s'appelle Thierry Péloquet, il est là aujourd'hui en face de moi, et présente aussi Élise Grusel, qui est chargée de communication de la revue 303, éditeur des carnets d'Anjou. Bonjour Élise Grusel.
Bonjour.
Bonjour Thierry Péloquet.
Bonjour.
Alors, avant d'entrer dans le fond, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de ce projet, monsieur Péloquet?
Alors, Carnet d'Anjou, comme son nom l'indique, ça parle un petit peu du patrimoine de l'Anjou. C'est une volonté, en fait, du département, puisque moi je travaille pour le conseil départemental. Et le département de Maine-et-Loire, en 2019, a souhaité développer un projet, justement, éditorial afin de valoriser le patrimoine du territoire, plus exactement les patrimoines, puisque nous avons la chance d'être sur un territoire extrêmement riche dans le domaine du patrimoine. Donc valoriser à la fois le patrimoine du territoire, y compris d'ailleurs le propre patrimoine du département.
Oui, et puis vous le faites bien.
Et on le fait bien. donc ça, c'était le premier objectif. Le second objectif, c'était aussi de divulguer d'une certaine manière, de diffuser auprès du plus grand public tout le travail, toute la connaissance que les services du patrimoine en fait accumulent depuis de longues années, au fil de leurs études, au fil des projets qui sont menés. Et donc, voilà, double objectif, valoriser le patrimoine du territoire, divulguer la connaissance que produisent les différents services de la conservation départementale du patrimoine.
Alors, juste pour vous faire... vous repartirez de cette conversation en plus réjouie, parce que quand j'ai fait une recherche sur Internet avec les mots-clés conservation du patrimoine, eh bien c'est le service de la conservation du patrimoine du Maine-et-Loire qui sort dans les trois premiers items. Il n'y a pas d'autres départements qui figurent. Hein. J'ai été dans plusieurs pages plus loin. Donc, au niveau communication, vous êtes finalement assez performant. En quoi, Élise Grusel, en quoi la revue 303, qui est à vocation régionale, trouvait-elle pertinent de s'investir dans un projet spécifiquement départemental?
Alors, la revue 303, elle est portée par une structure qui s'appelle les éditions 303, en fait, qui, d'une part, publie la revue 303, qui, elle, existe depuis 40 ans, et donc qui valorise le patrimoine de la région des Pays de la Loire. Par ailleurs, on a, au sein de l'association 303, donc, développé des partenariats avec des partenaires publics, des institutions publiques, dont le département de Maine-et-Loire, mais dont également la région Pays de la Loire, le service de l'inventaire de la région Pays de la Loire, le département de la Sarthe, enfin un ensemble de partenaires et de structures différentes qu'on accompagne sur des projets éditoriaux, qui se distinguent vraiment de la revue. Alors on garde nos atouts, c'est-à-dire le soin porté à l'édition, à l'image, et bien sûr l'objet, ça reste le patrimoine et la culture de la région, mais donc qui peut aussi s'intéresser à des territoires plus restreints que le simple territoire régional des Pays de la Loire.
C'est parce que j'avoue mon peu de connaissances, finalement, il faut savoir avouer les choses, hein, finalement, c'est que moi, j'avais une vision de la revue 303 par l'angle de la revue, des éditions 303 par l'angle de la revue, essentiellement, et c'est vrai qu'en faisant cette préparation autour des carnets d'Anjou, mais on en parlera à la fin de l'émission, je me suis aperçu qu'effectivement, peut-être que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, si tant est qu'on puisse parler d'iceberg pour les éditions 303. Monsieur Péloquet, vous êtes conservateur en chef du patrimoine du Maine-et-Loire. Vous êtes donc ce qu'on appelle un institutionnel. Moi, je pense que ce serait quand même important de dire quelques mots sur ce qu'est le patrimoine et ce qu'est la conservation du patrimoine, parce que c'est quand même toute une histoire.
Bien, le patrimoine, c'est ce qui fait une sorte de référence commune, une sorte de bien commun que l'on se doit de transmettre aux générations futures. C'est quand même une sorte de base, de référence, effectivement, que la population partage d'une certaine manière, reçoit en héritage de la part des anciens et que l'on se doit nous-mêmes de transmettre. C'est ce qui sert effectivement aussi de point d'appui à l'histoire même du territoire, c'est-à-dire que le témoignage du patrimoine, c'est une illustration un peu des différentes grandes périodes historiques qui se succédaient dans le département. Et on a la chance, comme je vous le disais, d'avoir un patrimoine très riche qui tient justement à cette histoire très particulière de ce qu'a été l'ancienne province d'Anjou, et notamment voilà, avec ses rives de la Loire qui voilà, ont accompagné à la fois la période médiévale, la période royale, et qui continue toujours bien évidemment d'avoir une place importante au sein du territoire. Mais voilà, ce patrimoine, il est aussi très très divers, c'est-à-dire que c'est bien sûr les châteaux, les églises, les abbayes, qui sont nombreux dans le département, mais c'est aussi un patrimoine végétal qui est important. Je pense notamment aux parcs et jardins qui sont voilà, étonnamment nombreux sur le territoire. C'est un patrimoine artisanal, industriel. Le patrimoine, il est vraiment diversifié. Et c'est en cela aussi que l'Anjou est riche, c'est-à-dire qu'il propose, au-delà des grands sites et des grands édifices que chacun peut connaître, la cathédrale d'Angers, le château de Saumur, voilà, les châteaux, grands châteaux privés, Brissac, Montgeoffroy, Serrant, etc. Il possède aussi tout un patrimoine rural, traditionnel. Je pense notamment au patrimoine des Moulins, par exemple, qui est un patrimoine rural qui est bien identifié et surtout bien valorisé dans le département. Et puis aussi un patrimoine artisanal industriel, par exemple, qui est peut-être moins connu. Mais il y a une histoire liée à l'extraction minière, notamment ardoisière, qui a produit des témoignages. Et voilà, tous ces témoignages aujourd'hui, eh bien, viennent ponctuer, on va dire, le territoire et donc rappeler aux habitants quelle est leur histoire.
Alors, cette histoire de conservation du patrimoine, c'est pas une lubie comme ça qui a émergé dans. Voilà, c'est une histoire, c'est de l'histoire ancienne. Enfin, ça remonte quand même à juste après la Révolution, où on a commencé à faire l'inventaire du. Enfin, il y a eu cette création de la commission des monuments. Et quand on examine l'histoire, après la Révolution jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de lois, de textes, de réglementations qui ont été publiés par rapport à cette question du patrimoine sont, c'est impressionnant, quoi. Ça va jusqu'à. Alors moi j'ai noté quelques petites références quand même. En 1983, les ZPPAU. Alors voilà, c'est un truc très très particulier. Donc c'est pas une mode, c'est pas nouveau. C'est pas finalement très original de conserver le patrimoine, mais c'est une préoccupation. C'est votre métier. Vous dirigez une équipe, mais il y a ces carnets d'Anjou. Quelle est la valeur ajoutée de ces carnets par rapport à votre mission à vous?
Je dirais que la particularité, on va dire, des carnets d'Anjou, c'est justement de valoriser. C'est-à-dire qu'il y a un temps, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un temps qui est d'abord de connaître le patrimoine. Pour bien le connaître, il faut en faire effectivement l'inventaire, le recenser. Et puis une fois qu'on le connaît, qu'on l'a étudié, il faut savoir le protéger, le restaurer, le conserver. quelquefois le réhabiliter aussi pour permettre voilà d'y faire des animations, d'avoir des projets autour d'un bâtiment restauré. Mais la dernière phase, on va dire, de la chaîne, c'est celui de la valorisation et de la diffusion de la connaissance autour du patrimoine. Et c'est vrai que les carnets d'Anjou ont été quelque part imaginés dans ce sens-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'était pour valoriser justement ce patrimoine. Alors, encore une fois, une grande partie de ce patrimoine, il est connu des Angevins de manière générale, et notamment les grands sites dont on parlait tout à l'heure. Mais de manière voilà plus diversifiée, je pense qu'il est important voilà de valoriser, de faire connaître au plus grand nombre, alors à la fois aux habitants du territoire, mais aussi à ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent visiter. Il y a une forme d'attractivité aussi. L'Anjou est un territoire assez attractif, de par, encore une fois, beaucoup de caractère. Et donc, c'est important de faire connaître ce qui fait la richesse de notre territoire à l'extérieur.
Alors, effectivement, vous dites comme ça assez rapidement, finalement, les habitants connaissent leur patrimoine. Alors moi, je vais vous avouer, je peux encore dire que je suis né au Angevin, puisque ça fait que 7 ans que j'habite à Angers, et donc je connais pas parfaitement ma géographie. Cependant, je marche beaucoup dans Angers et j'ai découvert. Enfin, c'est peut-être pas bien, mais je fais pas toujours attention au monument aux morts. Et j'ai découvert que le monument aux morts place Leclerc à Angers, c'était Jules Desbois qui en était le sculpteur, le réalisateur. Finalement, je l'avais jamais regardé. Moi, je l'ai regardé dans le numéro que vous consacrez, magnifique numéro que vous consacrez à Jules Desbois. Et puis je l'ai regardé pour de vrai. Alors on le voit pas très bien parce qu'on est trois quarts en bas et donc on le voit pas finalement pas très bien. Mais c'est quand même moi j'ai découvert qu'effectivement un grand sculpteur, ami de Rodin, absolument, a réalisé ce monument.
Absolument, oui. Bah voilà. Vous avez répondu quelque part vous-même à la question, c'est-à-dire que voilà, tout un chacun peut à un moment donné dans la ville se promener, découvrir un édifice, un édicule comme celui-là, voir le nom d'un sculpteur et se dire bah qui est ce sculpteur. Et effectivement, Jules Desbois, c'est un sculpteur qui est originaire du Maine-et-Loire, d'un tout petit village qui s'appelle Parcelles-les-Pins et qui a été, vous l'avez dit, à la fois l'élève, mais pas simplement que l'élève, il a été aussi l'ami de Rodin. Et puis, voilà, il est devenu lui-même un artiste vraiment très confirmé. Et il bénéficie depuis maintenant plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, d'un lieu en Maine-et-Loire qui est le musée Jules Desbois, qui se trouve donc dans cette petite commune de Parcelles-les-Pins, qui est un musée absolument formidable. J'invite tous les auditeurs à aller le visiter. Il est ouvert durant la période là du printemps et de l'été. Et c'est un musée avec lequel, bien sûr, le département est partenaire et qui conserve voilà toute une collection de sculptures de cet artiste absolument formidable, avec aussi d'ailleurs des dépôts qui viennent du musée Rodin de Paris, du musée d'Orsay. Bref, vraiment des trésors, des pépites qui sont dans un petit village du Maine-et-Loire et qu'on pourrait tout aussi bien voir voilà dans un grand musée parisien. Et donc l'objectif de ce petit livre consacré à Jules Desbois, qui est écrit par le conservateur du musée, par Florian Stalder. voilà, justement pour ambition de mieux faire connaître ce sculpteur, notamment des Angevins, mais pas que.
Alors, vraiment, moi, je l'ai découvert, ces sculptures sur la mort et tout ce qui tourne autour de la mort sont éblouissante. Enfin, il y a des, c'est impressionnant le travail qu'il a produit. Et puis l'intérêt. On se rend compte que c'est un puits de connaissances. Enfin, ce carnet, je pense carnet, mais je pourrais prendre tous les autres. Par exemple, on connaît la collégiale Saint-Martin. À Angers, ce serait malheureux quand même de ne pas la connaître. Moi, je la connaissais, je suis allé dedans pour toutes les grandes opérations qui sont organisées par le département dans la collégiale Saint-Martin. Là, mais je l'ai revue complètement différemment. Enfin, je la connaissais pas finalement, cette collégiale Saint-Martin.
Ben, c'est l'autre objectif de la collection dont je parlais tout à l'heure, c'est effectivement de divulguer la connaissance qui est produite par les services même du patrimoine. Et c'est vrai que cette collégial Saint-Martin, dont on va fêter d'ailleurs l'année prochaine le 20e anniversaire de la réouverture. Avant qu'elle ne soit réouverte et qu'elle soit un lieu culturel d'importance dans la ville, elle a fait l'objet d'une étude architecturale et patrimoniale très poussée, mais aussi de longues fouilles archéologiques. Et donc le résultat de ces fouilles, ça a produit de la connaissance. On a mieux compris quelles étaient les différentes campagnes de construction du bâtiment que l'on voit aujourd'hui, mais surtout du bâtiment ou des bâtiments qui préexistaient avant. Et donc les archéologues du département qui ont fait ces séries de fouilles archéologiques, évidemment sont riches d'une connaissance qui nous a semblé particulièrement intéressante de transmettre au public, parce que on voit aujourd'hui un bâtiment tel qu'il est au 21e siècle, mais l'analyse faite par des professionnels et par des scientifiques permet de reconstituer toute une histoire de très longue durée d'un lieu comme celui-là.
Et ce carnet consacré à la collégiale Saint-Martin, il permet de découvrir que c'est un Américain qui a fait une somme de recherche considérable, en fait, ce qui a constitué vraiment une base de données. Alors, base de données, c'est pas une base de données numérique, à l'époque, ça n'existait pas, mais c'est un Américain qui a fait un gros travail de recherche autour de la collégiale Saint-Martin.
Oui, un Américain qui s'appelle Forsythe, de mémoire. Oui, c'est ça. Je ne connais pas quand même le mais je voilà. Oui. Effectivement, c'est Forsythe qui à un moment donné, est venu travailler en Anjou et a fait, a participé à mieux connaître cet édifice. Mais vraiment, encore une fois, l'objectif de ces petits livres, qui sont encore, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui sont d'un petit format. Hein,
c'est un format de carnet,
Oui. Ça se manipule tout à fait bien. Ça coûte pas très cher. Oui. C'est entre 7 et 12 euros. C'est accessible, par le prix à un large public. Et puis, on a essayé aussi, bien sûr de proposer du fond qui soit solide, qui soit scientifique, mais avec une forme qui soit quand même agréable à la fois dans la lecture, mais aussi à travers la photographie, à travers l'iconographie, c'est-à-dire la reproduction de documents. D'ailleurs, il y a un rapport texte-image, comme on dit dans le domaine de l'édition, qui est largement en faveur de l'image. Non pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, au contraire, c'est souvent assez difficile des fois de contraindre les conservateurs, les chercheurs, etc., qui ont beaucoup de choses à raconter, bien évidemment. C'est toujours difficile de synthétiser le produit de sa recherche, mais c'est aussi pour permettre au grand public de pouvoir connaître des choses, sans être dans une lecture trop rébarbative.
Et ce qui me semble important, c'est que c'est un objet de grande qualité. Il y a le format, les typographies qui sont mises en œuvre pour réaliser les textes ou la couverture, l'iconographie, les photos, la reproduction des photos est extraordinaire, la qualité du papier qui supporte justement cette reproduction des photos, et c'est vraiment ça, ce sont des très beaux objets qu'on a presque peur de trop manipuler parce qu'on les a mis brun. Enfin c'est quand même dingue ce truc.
Là, c'est tout le travail éditorial porté justement par les éditions 303, et c'est pour ça aussi que cette structure a été choisie. Je rappelle quand même qu'on est dans un cadre public, donc la création de ces livres et de la collection, elle vient suite à un marché. On fait un marché public. Il y a d'autres éditeurs qui se sont positionnés, et puis le département a choisi de se tourner vers 303 parce que justement 303 est connu, était connu, et il l'est toujours à l'échelle régionale pour la qualité de sa production. La production de la revue, bien évidemment, qui est quarantenaire, entre guillemets, mais aussi la qualité des autres éditions, des autres publications que les éditions 303 ont portées ces dernières années. Et ce qui nous a amené à choisir notamment 303, c'est la qualité de son... de la production graphique, la qualité du traitement de l'image. Ce qu'on voulait, c'était effectivement avoir des livres qui parlent de patrimoine, mais avec quand même un regard un petit peu contemporain. C'est pour ça aussi que la typographie est travaillée, que le graphisme est travaillé, que tous ces éléments visuels qui viennent enrichir, la connaissance et qui viennent illustrer le texte font l'objet d'un regard attentif, notamment du graphiste qui travaille avec 303.
Bien, on va faire une première pause musicale.
Je crois pas que les jours se ont perdu la raison. J'ai juste l'impression qu'ils ont envie d'exister. Je crois pas qu'on fera mieux à part tourner en rond. Je préfère fermer les yeux, c'est déjà merveilleux. Je voudrais voler si haut. Qu'il suffit d'exister. Je crois pas qu'on fera mieux à part tourner en rond. Je préfère fermer les yeux, c'est déjà merveilleux. Tout n'est pas si sombre quand disparaît. Les jours heureux ont perdu la raison. J'ai juste l'impression qu'ils ont envie d'exister. Je crois pas qu'on fera mieux à part tourner en rond. Je préfère fermer les yeux, c'est déjà merveilleux. C'est déjà merveilleux.
Chanter Les Jours Heureux, de son vrai nom, c'est Malika Nidelmourid. Et c'est un nom qui parlera très certainement aux amoureux des musiques de l'Anjou. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez Entre les Pages, une émission qui ne passe aussi que des musiques de l'Anjou. Aujourd'hui, j'accueille dans le studio Élise Grussel, j'espère ne pas me tromper de prénom, et Thierry Péloquet, et nous parlons des carnets d'Anjou. Alors, si on essaye d'explorer un peu cette collection. Alors, la collection, elle compte, Élise Grussel, il y a combien de numéros dans la collection aujourd'hui? Parce qu'on peut parler de collection.
Alors, il y a en effet 7 ouvrages qui sont parus depuis. Donc, le premier ouvrage portait sur le Plessis-Massé. Et donc oui, il y aurait en fait c'est 7 dans leur format, on va dire originel. Et en effet, il y a un 8e titre qui est sorti dans une variante de la collection qu'on appelle Carnet d'Anjou photographie et qui s'intitulait donc Mémoire industrielle, qui portait sur le patrimoine industriel segréen.
Alors je me retourne vers vous là. Pourquoi avoir choisi un format différent? Parce que moi, quand je les range, il y en a tout d'un coup un qui dépasse là. Donc ça crée du désordre en fait. Non, sérieusement, pourquoi avoir pris cette option d'un format plus grand?
Eh bien, c'est surtout lié au médium qu'on met en avant dans cette variante de la collection, donc la photographie, qui nous semblait être importante de mettre en valeur. Et donc, en effet, quand on a une page plus grande, on peut vraiment présenter les photographies de façon plus importante. Et là, quand on a des images avec des détails, en tout cas, ça permettait vraiment d'avoir un objet différent aussi. Il est différent pas que d'ailleurs par la taille, mais aussi par la finition, puisque c'est une couture singère au niveau de la fabrication de l'ouvrage. Donc voilà, c'est aussi, on sait que la photographie, c'est quand même aussi un médium qui est très proche du livre. C'est vraiment une mise en valeur le livre, c'est un vrai médium important pour la mise en valeur de la photographie. Et je pense que c'était aussi dans cette tradition-là que cette variante de la collection s'inscrivait.
Alors ce numéro-là, spécial, Mémoire industrielle, il compile trois photographes, les photos de trois artistes, Christophe Mélois, Sylvain Dufard et Armel Maugin. Alors effectivement, je posais la question naïvement, mais j'avais la réponse en la posant. C'est-à-dire qu'effectivement, ça aurait été dommage de limiter la taille de certaines des photos. Je pense aux photos de Armel Maugin, par exemple, qui sont des photos magnifiques, des portraits américains, en plan américain de personnalités du Segrien. Et c'est des portraits, qui font rêver. Alors je parle même pas des photos qui sont dans la mine, etc. C'est vraiment un travail magnifique. Thierry Péloquet.
Juste peut-être pour recontextualiser en fait ce carnet d'Anjou un peu particulier.
Oui.
Voilà, il est lié aussi en fait à un projet que le département porte depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle une saison photographique, dont le but est de valoriser le patrimoine à travers le regard contemporain d'un artiste photographe. Mmh. Voilà, et donc du coup, on organise depuis 3 ans des expositions. Qui sont souvent liés en fait à l'accueil d'un photographe en résidence artistique pendant quelque temps sur le territoire. Et donc pour ce numéro particulier, effectivement, c'est un projet qui a été construit avec la communauté de communes du Segréen qui s'appelle Anjou Bleu Communauté. Et l'idée, c'était de travailler sur l'histoire industrielle de ce territoire à travers le regard donc de 3 photographes, l'un qui s'intéresse plutôt à l'aspect architectural, l'autre plutôt à l'aspect ou du bâti, entre guillemets, du témoignage bâti de l'histoire industrielle, un autre regard lié plutôt au paysage industriel, et puis un troisième lié plutôt aux hommes et aux femmes qui racontent aussi cette histoire. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus là un ouvrage avec de la photographie, il y a très peu de texte, mais c'est aussi lié à ce projet donc de saison photographique qui a justement pour ambition de croiser à la fois la valorisation du patrimoine, mais aussi la création artistique contemporaine.
Oui, avec et effectivement, c'est important de non pas de revisiter, mais de donner aussi la parole à des artistes contemporains d'aujourd'hui qui ont leur propre regard, qui fabriquent aussi et donc en nous faisant leurs propositions, nous font regarder aussi autrement. Le paysage, les hommes, les femmes.
Absolument, non, mais c'est complètement ça, parce que effectivement, les conservateurs, les scientifiques, on sait très bien ce que c'est que le patrimoine, et quelque part, j'allais dire, on peut nous-mêmes l'inventer ou le créer, mais il faut aussi compter avec le regard à la fois des habitants, mais aussi des artistes. Bref, avec les regards des uns et des autres qui peuvent faire un pas de côté et qui ont leur propre appréciation finalement à la fois de leur histoire, de leur territoire et de ce qui peut faire patrimoine sur ce territoire-là. Donc c'était vraiment l'objectif total de ce projet.
Alors autre carnet. La manufacture d'allumettes de Trélazé. Alors dit comme ça, ça paraît un peu comme ça, assez surréaliste, faire un projet. Mais on se rend compte en lisant ce carnet que cette manufacture d'allumettes, elle a une histoire forte.
Alors elle a une histoire forte. Chaque ouvrage est lié finalement aussi à un projet. Mmh. Il y a des ouvrages qui sont dont le thème a été choisi parce que effectivement des travaux de recherche ont été faits. des études ont été menées, il nous semblait important de pouvoir les divulguer, comme je le disais tout à l'heure. Et puis d'autres ouvrages sont liés à des projets. Là, pour la manufacture d'allumettes, un certain nombre d'Angevins savent peut-être que c'est un bâtiment qui a une histoire effectivement ancienne, puisque une première manufacture a été créée au milieu du 19e siècle, avant qu'une seconde apparaisse dans les années 20-30, qui est en partie conservée aujourd'hui et a été réhabilitée, notamment pour un certain nombre de ces anciennes halles, en logements sociaux. Et donc l'idée, au moment où justement ce patrimoine qui a été mis un peu en danger à un moment donné, hein, et il a failli disparaître, mais un projet architectural et urbain a été mis en place à la fois par la municipalité et l'agglomération. Et donc du coup, ce qui était intéressant, c'était là de parler bien sûr de l'histoire patrimoniale du lieu, mais aussi de regarder comment aujourd'hui un patrimoine comme ça peut avoir une autre vie. Et donc être réhabilité pour un autre usage. Et c'est aussi comme ça que l'on peut conserver le patrimoine, c'est-à-dire que conserver le patrimoine, c'est important, mais ça coûte beaucoup d'argent, et que l'argent se fait rare aujourd'hui, et que pour un certain nombre de lieux patrimoniaux, s'il faut, dans l'idée de le conserver, il faut aussi peut-être se poser la question de sa nouvelle affectation.
De son usage. Parce que l'intérêt aussi de la conservation, c'est que c'est aussi... originellement un projet architectural, c'est-à-dire que ça n'a pas été fabriqué n'importe comment, c'est pas une usine qui a été jetée comme ça. Il y a eu un projet architectural ambitieux dont d'ailleurs vous avez gardé, enfin les traces ont été gardées quasi entièrement.
Alors oui, déjà il y a des traces matérielles puisque en fait on a pu conserver, enfin les porteurs de projet ont pu conserver une partie effectivement des bâtiments, mais on conserve beaucoup de traces d'archives. Puisque la manufacture d'allumettes avait un temps versé ses archives aux archives départementales de Maine-et-Loire. Donc il y a de la documentation d'archives qui permet de retracer l'histoire du lieu. Et il y a une très riche documentation iconographique aussi. Voilà, puisque à l'époque, la manufacture avait fait... Enfin, à l'époque, dans les années 60-70, la manufacture, pour promouvoir son savoir-faire et ses produits, avait fait appel à plusieurs photographes, d'ailleurs, qui sont venus travailler. Et donc, on a reproduit un certain nombre de travaux de ces photographes publicitaires ou autres qui sont intervenus sur le site.
Alors, ça, c'est la manufacture d'allumettes. Et puis, on est en Anjou. On est en Anjou et on ne peut pas ne pas parler du vin, c'est pas possible. Donc bien évidemment, il y a un carnet qui est consacré au patrimoine de la vigne et du vin. Comment ça s'est construit ? C'était alors d'abord première question. Je me retourne vers Élise Grusel. Peut-être que c'est Thierry Péloquet qui a la réponse, mais je retourne quand même vers Élise Grusel. c'était inévitable. Il fallait faire un carnet sur la vigne et le vin.
Mais c'est sûr que c'est un sujet, d'ailleurs, nous, au sein de la revue, c'est quand même un sujet qu'on traite de façon régulière. En tout cas, le rapport à la gastronomie, au vin, reste quand même un sujet important. C'est sûr aussi que même, tout bêtement, c'est un sujet vendeur. En tout cas, on sait qu'on a un public...
Il y a du business derrière les carnets d'Anjou.
Il y a en tout cas un lectorat qui est très attentif à toutes les publications qui sortent sur ce sujet, et d'autant plus quand il est circonstancié à un territoire, je pense. Et là, c'était tout l'atout de ce carnet qui parlait d'un territoire, et donc avec une communauté de vignerons quand même qui est quand même assez importante dans la région et qui sont en plus, je pense, une communauté qui est très sensible finalement à leur histoire aussi, à ces questions patrimoniales. Donc il était important de faire un carnet, en effet, sur ce sujet.
Alors, si je dis qu'on retrouve une planche d'Étienne Davodeau, extrait des Ignorants, ça ne surprendra personne, bien évidemment. Il y a une magnifique photo du clos d'entre les murs de Parnay. Alors, moi, j'étais passé, mais en fait, je l'ai jamais vu comme ça, parce que quand on passe, on le voit pas. Là, il est pris trois quarts dessus, et c'est vraiment un clos extraordinaire. Et puis, dans ce carnet, il y a une... La dernière photo, qui est éblouissante, qui est la promotion, alors à boire avec modération, etc., etc., qui est pour les caves Ackermann, on peut les citer, ça me gêne pas, qui est une publicité qui doit dater des années début du XXe siècle et qui est impressionnante. dans sa, enfin c'est une image sur une double page qui est sidérante de plus que de réalisme d'ailleurs de poésie. C'est pourtant de la publicité pour de l'alcool, mais c'est vraiment une très très belle image. Donc ça, c'est aussi un des carnets. Il y a encore un autre, on va le prendre. J'essaye de les parcourir tous, mais il y a celui qui est consacré à André Leroy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur Péloquet, qui était André Leroy ?
Alors, André Leroy, il est connu des Angevins, avant tout parce que c'est un horticulteur très important, qui a exercé à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Mais c'était aussi un dessinateur de jardins et de parcs. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, parmi la diversité des patrimoines que l'on trouve en Anjou, le patrimoine des parcs et jardins est assez considérable. Une étude d'ailleurs très exhaustive avait été réalisée par les services du patrimoine du département il y a quelques années, qui avait d'ailleurs donné lieu à un très, très joli livre sur cette thématique-là. Et André Leroy figure parmi les grands dessinateurs de parcs et de jardins de la seconde moitié du 19e siècle, époque à laquelle on a construit beaucoup de châteaux, alors construit ou reconstruit beaucoup de châteaux. Et évidemment, autour du château, on en a profité pour aménager ou remodeler le parc, pour notamment en faire des grands parcs paysagers un petit peu à l'anglaise, selon le modèle anglais. Et donc, il a connu un vrai succès en Anjou, mais aussi dans tout l'ouest de la France. Donc c'est une personnalité très 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 marquante, très forte. On n'est pas très loin d'ailleurs de la place André Leroy, qui est pas très loin. Et ça faisait aussi un peu partie du cahier des charges, d'une certaine manière, de cette collection. C'était attirer l'attention du public sur des grands édifices du patrimoine angevin. On a parlé de la collégiale Saint-Martin ou du château du Plessis-Massé, mais aussi du patrimoine industriel, du patrimoine artisanal. Là, on est sur du patrimoine plus végétal, d'une certaine manière. Et donc, aborder vraiment toutes les thématiques qui permettent d'illustrer la diversité et donc la richesse du territoire.
On vient de le voir, pour l'instant, 8 épisodes, 8 numéros dans ces carnets. Et donc, est-ce qu'il y a des projets ?
Évidemment.
Donc, quels sont-ils ? Qu'est-ce qui va être publié bientôt, prochainement ?
Alors, prochainement, ce sera après l'été. Il y a deux titres qui sont en préparation. L'un qui est bien avancé, qui sera consacré à l'histoire de l'ancienne abbaye Saint-Aubin d'Angers. Alors, là, pour le coup, on est sur un édifice très particulier, puisqu'il abrite aujourd'hui à la fois les services du conseil départemental, mais aussi les services de la préfecture du département. Donc c'est un lieu pour lequel finalement que les Angevins connaissent ou passent devant régulièrement, mais tout le monde ne peut pas forcément y rentrer. Donc on va bien évidemment montrer un peu de quoi est constitué à la fois la préfecture actuelle et puis les parties anciennes de l'abbaye. Et puis surtout, on va en refaire l'histoire, parce que je pense que c'est une histoire qui est très riche, que peu de gens connaissent finalement depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et puis c'est une histoire qui est aussi une actualité plus contemporaine, puisque le département s'est agrandi il y a quelques années d'une nouvelle aile sur le boulevard Foch, suite à un concours d'architecture. Donc c'est aussi sur ce temps long de l'histoire qui est intéressant. On va partir quasiment de l'Antiquité avec ce livre-là pour arriver jusqu'à la période contemporaine et retracer comme ça différentes campagnes d'architecture.
Donc ça, c'est prochain projet pour la rentrée, pour le mois de septembre-octobre, et puis
Et puis toujours pour l'automne, mais un petit peu plus, un peu plus tard à l'automne, puisque le département va de nouveau proposer cette saison photographique avec plusieurs expositions de photographes qui vont traiter de la question du patrimoine. On va avoir finalement, en guise de catalogue de ces différentes expositions, un nouveau carnet d'Anjou photographie qui sera associé à 3 photographes qui vont exposer que l'on va exposer pendant l'automne. Une photographe qui s'appelle Anne-Marie Filaire, qui est une photographe qui a pour projet depuis maintenant 2 ans de faire une expédition photographique le long de la Loire, depuis sa source jusqu'à l'estuaire. Et donc on l'a accueilli en résidence pendant le printemps là en Anjou, et une exposition de ses photographies va avoir lieu au Pont de Cé à partir du mois d'octobre, dans un lieu qui s'appelle Rive d'Art. Donc ça, c'est la première artiste. On a une seconde artiste qui s'appelle Cécile Geneste, qui travaille, elle, sur plutôt le patrimoine végétal botanique autour de la Loire. Ce sera vraiment une thématique qui va être centrée sur la Loire cette année. Et donc, son exposition aura lieu à partir du mois de septembre à la Maison Julien Gracq pendant tout l'automne. Et puis un troisième photographe qui est décédé relativement récemment, mais voilà, qui a fait lui aussi tout un travail sur la Loire, qui s'appelle Thibaut Cuisset, et qui sera exposé dans la galerie Loire, justement au théâtre du Dôme à Saumur. Voilà, donc ces trois photographes feront l'objet voilà, de cette prochaine mouture du carnet d'Anjou photographie.
Et hors micro, puisqu'on échangeait hors micro, j'attendais d'entendre vos projets. Est-ce que il y a un projet ou des projets qui seraient plutôt situés sur le sud du département, le Choletais, la chaussure et le textile?
Alors pas pour le moment, mais alors récemment d'ailleurs, je crois qu'il y a un ouvrage qui vient de sortir sur l'histoire de la chaussure dans le Choletais et dans les Mauges. Alors je ne sais plus qui est l'auteur, c'est pas bien d'ailleurs, mais il y a un ouvrage de référence qui vient de sortir là-dessus. Alors pour l'instant c'est pas au programme. Là on a déjà des idées de titres pour l'année prochaine. Pour l'instant c'est pas encore validé. On va en parler aussi à nos élus, à notre présidente, et puis on verra quels seront les heureux lauréats ou les territoires qui seront illustrés l'année prochaine.
Eh bien, je vous propose une deuxième pause musicale.
Mais ça va, c'est pas une bonne idée. De toute façon, ça sert à rien. Ouais, je sais. Si j'avais un taser, on pourrait s'amuser des heures. Je connais un mec qui fabrique des flèches et des arcs. Je vais l'appeler. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. J'ai pour toi, est-ce que tu l'as pour moi? S'il te plaît, on avance, on sait pas si ça va tenir le coup. On verra. Je vais pas sauter par la fenêtre, non, je vais patienter. T'en fais pas. Qu'est-ce qui reste à sauver? Défonce les trois premiers et basta. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître. Je ne sais pas si je te plaise, mais je dois disparaître.
C'était Nerloff qui a chanté Disparaître, accompagné par Roman au piano. Vous écoutez Radio G sur la fréquence 101.5 et c'est Entre les pages. Je suis toujours avec Élise Gruzel et Thierry Péloquet. Nous parlons des carnets d'Anjou. Mais les carnets d'Anjou, sans la revue 303, ben, ils n'existeraient pas. Il faut donc parler à nouveau de cette éminente maison d'édition et de cette éminente revue. Et qui de mieux pour en parler que Élise Gruzel? Alors, monsieur Péloquet s'inquiétait tout à l'heure du fait que Élise Gruzel parle peu, donc elle va se venger maintenant. Élise Gruzel, vous êtes en charge de la communication, hein, aux éditions.
Et de la diffusion.
Alors, merci pour votre réactivité, pour votre attention. Ça a été un plaisir, un régal de travailler avec vous. La fin de l'année 2024 a connu une révolution dans le champ culturel au niveau régional. 6 mois après le vote du budget, la politique décidée par la région sous l'impulsion de sa présidente Christelle Morançais s'est mise en œuvre. Vous en êtes où aujourd'hui?
Alors, en effet, pour revenir peut-être sur le terme des décisions qui ont été prises à la fin de l'année dernière, donc l'association 303 recevait une subvention de la région. D'ailleurs, on ne recevait de subvention que de la région. On n'avait pas d'autres financeurs. Hein. Il a été décidé donc la réduction de moitié de la subvention pour cette année et donc pour 2026 la suppression intégrale de la subvention de la région, en sachant que dans notre mode d'organisation l'association dispose de différentes ressources, bien sûr des ventes des titres qu'on produit, à la fois la revue et les éditions, des partenariats donc qu'on a avec d'autres éditeurs, et cette subvention qui était vraiment fléchée sur la revue, sur le fonctionnement de la revue. Et par rapport à notre budget global, cela représentait entre 40 et 60% de notre budget. Donc en effet, c'est plus qu'une révolution, c'est un tsunami qu'il va falloir réussir à contenir, en tout cas trouver des solutions, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec toute l'équipe et avec la communauté, les proches de la revue. À la fois donc d'essayer de trouver un nouveau modèle économique qui puisse permettre de faire perdurer la revue, qu'on puisse continuer nous éditeurs à exister et à protéger quand même une revue qui existe depuis 40 ans, ce qui est pas rien quand même.
Justement. Dans les propos violents qui ont été tenus pendant cette période, la culture a été présentée soit comme le bastion des contestations, soit comme une danseuse, presque une lubie. Mais l'histoire de la revue 303, donc comme vous l'avez dit, elle remonte à il y a 40 ans. Vous pouvez nous en rappeler quelques éléments?
Oui, tout à fait. Alors la revue, en effet, elle a été créée en 1984 à l'initiative d'un conservateur du patrimoine, Jacques Caïto, qui a été proposé ce projet au président de région de l'époque, Olivier Guichard, donc de créer une revue qui puisse permettre de valoriser le patrimoine, la culture de cette jeune région qui était les Pays de la Loire à l'époque. Ce projet a été accepté et porté par la région tout au long de ces 40 dernières années et tout au long aussi de ces différentes majorités qui se sont succédées durant ces 40 dernières années.
303, en termes d'infrastructure, ça représente quoi aujourd'hui? C'est une équipe de combien de personnes?
Alors, à l'heure actuelle, on est quatre salariés, donc trois salariés en temps plein et une à temps partiel, qui une directrice, une responsable d'édition qui s'occupe de la revue, moi qui suis plutôt donc sur la partie diffusion et communication. Et une personne qui s'occupe des aspects administratifs, mais fait aussi du suivi éditorial.
Alors, le public peut parfois s'interroger sur la réalité des conséquences de la mise en œuvre des politiques publiques et des décisions budgétaires. Par exemple, vous avez subi des coupes drastiques, mais vous avez sorti au mois d'avril le volumineux numéro sur la Loire, volumineux et magnifique, et on a reçu Gwen de Bonneval pour venir nous en parler. Il y a ces projets au niveau des carnets. Ben finalement, aux yeux du public, tout va pas si mal.
Alors, c'est une question de survie de continuer aussi à produire. C'est très important, plus que jamais, de montrer l'intérêt de la revue, en tout cas de montrer ce que, de continuer à faire ce qu'on faisait depuis ces 40 dernières années. Donc après les effets, ils sont quand même aussi directs, de façon très concrète. Par exemple, le programme éditorial de la revue, on était à 5 numéros par an. Il y a un numéro qui va être supprimé suite à ces coupes. Voilà, des restructurations au niveau de l'équipe. Il y a plein de choses qui sont mises sur la place, sur la table actuellement, pour faire en sorte que la structure poursuive son chemin.
Alors, on l'entend, période difficile, comme pour beaucoup de structures. Enfin, c'est vraiment, mais pas forcément le marasme d'ailleurs. En fait, ça veut dire, faut réagir. Hein, faut non pas s'adapter, mais réagir. Ça veut dire aussi peut-être des projets. Est-ce qu'il y a des projets pour la revue ?
Ben toujours. on continue bien sûr nous à travailler sur le programme éditorial de la revue. Donc voilà, sur les prochains numéros. Là, à la fin du mois, enfin début du mois de juillet, sort un numéro sur les paquebots et les chantiers de Saint-Nazaire. Au mois d'octobre, il y aura un numéro sur le couple Claude Cahun, Marcel Moore. Donc Claude Cahun, qui est une photographe proche du surréalisme nantais de l'entre-deux-guerres. Par ailleurs, on continue donc les partenariats, que ce soit là avec le département ou avec par exemple le voyage à Nantes, mais également avec l'abbaye de Fontevraud, pour lequel on va publier le catalogue des collections du musée d'art moderne. Donc un très beau et gros ouvrage exhaustif sur l'intégralité des collections du musée. Et également en projet, en cours, un projet de livre autour des vitraux de François Rouen à l'abbaye de Fontevraud également. Donc voilà.
Nous, béotiens, on est un peu loin de tout ça, on regarde, on voit les vagues, on voit les tourmentes, les tempêtes, les manifestations. Puis on se rend compte qu'il y a des boucles qui se forment, quoi. Fontevraud, qui est le seul rescapé pratiquement des politiques culturelles régionales. Finalement, 303 va éditer le catalogue. Enfin bon, tout ça est bien mystérieux et bien étrange. Mais, est-ce que vous avez des projets tels que le projet des carnets d'Anjou, mais pas celui-ci, mais sous une autre forme, avec les départements ou avec des départements de la région? Est-ce qu'il y a des projets comme ça particuliers?
Alors, en tout cas là, sur les projets à venir, pas pour le moment. Il y a eu, par exemple, l'année dernière, on a eu un projet avec le département de la Sarthe autour de l'abbaye de Lépau. Donc voilà, c'est le type de projet qui peuvent exister. Voilà, on continue nous aussi à être en lien avec les acteurs publics et à montrer ce qui est possible de faire avec nous. En tout cas, on pense que le livre reste quand même un objet qui permet de valoriser les activités de tous ces acteurs et voilà, qu'on reste un acteur important aussi sur ce secteur.
Et que le papier, quoi qu'on en dise, c'est quelque chose d'excessivement important et de très certainement moins polluant que tout ce qui peut se produire au niveau du numérique. Moi, je suis toujours étonné, moi, par la qualité des productions de cette maison d'édition. Le résultat des carnets d'Anjou, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller les consulter, à les acheter parce qu'ils coûtent vraiment pas cher. C'est pas cher, quoi. Le numéro sur la manufacture d'allumettes de Trélazy, il est à 10 euros. Ce sont vraiment des documents passionnants, beaux, intéressants. Monsieur Pelloquel, vous l'avez dit, vous avez fait référence régulièrement au fait que ce soit le résultat de travaux de chercheurs, de scientifiques. C'est-à-dire que c'est pas une production comme ça à la légère. Ça se fait pas vraiment, c'est pas par inadvertance, quoi. Hein?
Non. Tout l'enjeu, d'ailleurs, c'est de mettre à la disposition du public, encore une fois, de la connaissance qui soit accessible. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas facile, voilà, pour quelquefois des chercheurs, des conservateurs, des collègues, de transmettre justement la connaissance scientifique, mais c'est un vrai défi. Et c'est tout, je pense, qui fait l'intérêt de cette collection, en l'alliant avec aussi le plaisir de l'illustration.
Eh bien, je vais vous remercier tous les deux d'être venus dans ce studio parce que il va falloir qu'on s'arrête là, c'est bientôt 18h. Alors, pour conclure cet épisode de Entre les pages, un petit coup d'œil sur l'agenda. Les 13 et 14 juin, ce sont les 15 ans et demi, parce qu'ils font n'importe quoi. C'est les 15 ans et demi de la librairie Repère des héros. Ils célèbrent ça au 11 rue Paulbert à Angers. Il y aura que du beau monde, plein de dédicaces, des masterclass. Et pour moi, c'est l'occasion de saluer l'une des directrices de cette belle librairie, pardon, Tine Guyenne, que j'ai eu l'occasion d'interviewer l'été dernier. Dans la foulée, vous penserez aussi à aller à la librairie Myriagone le mardi 16 juin. Ils reçoivent Adèle Lyon autour de son roman « Mon vrai nom est Elisabeth » paru aux éditions du Sous-Sol. À nouveau, une librairie importante à Angers. Et puis, information et surtout, pour cet été, recommandation de deux lectures. Le numéro 48 de la revue Dissonance, qui porte pour titre « Féerie ». J'ai déjà dit ici tout le bien que je pense de cette revue. Et puis, le nouveau numéro de La Topette, le journal local, populaire et indiscipliné. Encore une fois, dans cette fournée de l'information sur papier qui dérange, mais c'est ça le journalisme. Et c'est encore une fois du papier et du vrai. Au cours de l'émission, vous avez entendu Bloom qui a chanté Les Jours Heureux et Nerloff, accompagné de Roman qui a chanté Disparaître. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 18 juin à 17h. Et je recevrai Étienne Bégouin, qui vient de rédiger le guide des 100 lieux pour les curieux de l'Anjou. Et en fait, peut-être que ce petit guide qu'il a produit s'inscrit dans le droit fil de l'émission d'aujourd'hui sur la connaissance du territoire. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine quotidien Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
silently galumphing about and seeing the butcher so shy. And even the baker, simple to stop, made an effort to wink with one eye.
FM.